C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile. Au XXIe siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du jet lag, des Mastercard, de la com, de la pub, au XXIe siècle quoi. C'est pas pour dire, mais toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
I have a dream.
Salut, c'est Charles Cécile. Bonjour, Angèle.
Bonjour.
Alors, cette fois-ci, bon, on est en milieu naturel. Vous entendrez au cours de l'émission différents petits bruits de la nature, peut-être des avions qui passent, donc c'est normal. Aujourd'hui, journée du patrimoine, on se retrouve tous les deux de l'autre côté du micro. Angèle Gauduchot, conteuse, et moi, Charles Cécile. Voilà, on a collaboré ensemble. Donc sur la fabrication, si on peut dire ça comme ça, de cette émission qui s'appelle « C'est pas pour dire » et qui va fêter cette année, qui fête cette année, là, aujourd'hui, son 100e numéro. Voilà, donc en cette année 2019.
Ah, le 100e, ce sera l'émission du mois de décembre.
Alors, depuis 2011, en fait, on va récapituler un petit peu. Depuis 2011, la compagnie La Lune Rousse, qui est la compagnie nantaise qui regroupe plusieurs conteurs et conteuses, la compagnie La Lune Rousse fait une émission depuis 2011 sur la radio Jet FM, qui couvre l'ensemble de l'agglomération nantaise. Cette émission s'appelle « C'est pas pour dire », je l'anime. Et pour ça, je pars régulièrement interviewer des conteurs, aller à la rencontre des uns et des autres. Et toi, Angèle, tu es conteuse, c'est toi qui as eu en fait l'idée de cette série d'émissions.
Yes.
Voilà. Bien que ça ne soit pas uniquement le seul sujet de cette émission « C'est pas pour dire », ben voilà, à chaque fois, il y a quand même beaucoup de questions de patrimoine immatériel. Alors, en quoi les émissions que l'on fait concernent donc cette notion de patrimoine immatériel ?
Le but de l'émission au début, c'était de donner la parole à cette petite poignée de gens qui ont réintroduit le conte en France il y a une quarantaine d'années et d'enregistrer cette richesse-là. Quand je dis richesse, on pourrait dire que c'est un autre mot pour patrimoine. Les témoignages d'intention de ces conteurs, pourquoi ? Je raconte les témoignages de techniques, comment je le fais, avec quels outils, de conditions, c'est-à-dire où je raconte, dans quelles conditions, pour qui, et évidemment de répertoire, qu'est-ce que c'est, quel genre de récit je raconte.
Alors tu parles de réintroduire le conte en France, bon moi j'ai beaucoup entendu des histoires de réintroduction dans les montagnes à propos de l'ours et du loup, voilà, parce que en fait ces animaux-là sont en cours de disparition. Voilà, tu peux nous commenter un petit peu cette idée-là.
Le conte avait disparu à un moment en France. Quand les occasions de raconter avaient disparu aussi, quand les occasions de se rassembler, le temps nécessaire pour raconter avaient disparu. Parce qu'évidemment, une histoire n'existe que si on est plusieurs, enfin disons au moins deux, quelqu'un qui raconte, quelqu'un qui écoute. Et ça, on pourrait dire que c'est déjà une richesse commune, enfin un patrimoine partagé, ça se partage ensemble. Une parole ne peut exister si elle n'a pas d'interlocuteur. Il faut quelqu'un pour parler, quelqu'un pour écouter. La parole exige d'être plusieurs. Il faut être plusieurs au même endroit, dans le présent. Le conteur et l'auditeur se rencontrent. Et dans cette rencontre particulière, s'élabore le récit qui se déploie sur le moment, avec le corps, du conteur et de l'auditeur, évidemment, avec une émotion, une énergie, une écologie, on pourrait dire, de l'instant. Et l'autre jour, il y avait un conteur ivoirien, Adama Adepojou, autrement dit taxi-conteur, qui commençait un de ses récits en disant « Quand tu mets les pieds dans une affaire, tu peux toujours faire demi-tour. Quand tu mets les mains dans une affaire, tu peux toujours les retirer. Mais quand tu engages ta parole, c'est beaucoup plus difficile. Les mots, une fois prononcés, ne peuvent plus être avalés. Même dit dans le noir, même dit dans le vent, il t'engage, c'est dit. » Et dès qu'une histoire est racontée, elle échappe à celui qui l'a dit pour devenir la propriété de tout le monde. D'ailleurs, c'est comme ça que les contes ont voyagé pendant les millénaires à travers le monde, de bouche à oreille. Et comme on... Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on trouve du coup des versions à la fois semblables et très différentes des mêmes récits partout dans le monde, sans qu'on puisse dire celle-là, c'est la vraie. Le conteur Bruno de la Salle, qu'on entendra tout à l'heure, dit « Si un conteur veut qu'une histoire reste vivante, il doit la raconter et accepter qu'elle soit dite par un autre. »
Bon, à propos d'histoire, de patrimoine, de partage, je vous propose d'écouter la fameuse histoire du jugement de Salomon. Hein, Salomon, ce roi mythique, dont on trouve des histoires dans la tradition arabe, le Coran, les mille et une nuits, dans la tradition soufie, dans la mystique persane. Également dans la tradition juive, aussi bien dans la Bible que les contes du Talmud. Et évidemment, dans la tradition éthiopienne, dans le fameux Kebra Nagast, puisque Salomon est relié à la reine de Saba.
Ah bah oui, hein, ouais, quand même.
Voilà, donc, le jugement de Salomon, et c'est la conteuse Catherine Zarkat qui raconte.
Sache, reine de Saba, que le roi Salomon s'intéressait à la justice depuis qu'il était enfant. Et il était toujours assis à côté de son père, sur un petit coussin. Et quelquefois, il intervenait dans les jugements. Son père le lui avait autorisé parce que son avis était fin, remarquable et servait la justice. Alors, malgré son jeune âge, eh bien, le père lui avait permis de parler. Et le garçon intervenait avec un discernement remarquable. Il voyait tout. Il comprenait vite. Un jour, qu'il était assis sur son coussin et qu'il avait 7 ans, deux femmes se sont présentées devant le roi David. La première avait un bébé dans les bras et pas l'autre. Et une des femmes s'est mise à parler. Elle a regardé David et lui a dit « David, cette femme et moi habitons la même maison et nous avons été enceintes en même temps. Et nous avons accouché la même nuit. Or, cette femme a étouffé son bébé dans la nuit. En dormant, elle l'a étouffé avec ses seins. Et quand elle s'est rendue compte que le bébé était mort, elle s'est levée. Elle est venue jusque chez moi. Et elle a pris mon bébé vivant. Et c'est maintenant mon bébé qu'elle tient dans les bras. Et roi David, je demande justice. » Et l'autre femme a parlé à son tour. Et elle a dit, « Non, c'est elle qui a fait ça. C'est elle qui l'a fait. Ce qu'elle a dit, c'est ce qu'elle a fait. Et le bébé est à moi. C'est elle qui a tué son petit. Roi David, juge entre nous. » Et le roi David ne savait pas juger. Il n'avait pas d'idée. Et c'était tellement douloureux, tellement difficile. Il est resté silencieux. Alors son fils s'est tourné vers lui et lui a dit « Papa, je sens que je peux juger cette affaire. » Mais David n'y a pas cru. Il s'est tourné vers l'enfant et lui a dit « Chut !» Mais Salomon a insisté et lui a dit « Papa, je sens que je peux juger cette affaire. » Alors David s'est tourné vers Salomon et lui a dit « Je vais te laisser la place sur ce trône. Et si tu vois ce que les rois d'Israël voient quand ils jugent, alors tu pourras juger. » David s'est levé. Salomon s'est assis à sa place. À peine il était assis, qu'il a vu devant lui dans l'invisible une épée flamboyante entre ciel et terre. Et cette épée, on dit qu'elle est dirigée sur le cœur du roi. Si le jugement est tordu, elle tombe. Si le jugement est acheté, elle tombe. Si le jugement est trop maladroit, elle tombe. Quand Salomon a vu l'épée de justice, il en a vibré de tout son être. Il a souri. Son père a vu dans les yeux de ce garçon-là qu'il avait vu l'épée. Il en a été impressionné. Et il lui a dit, « Puisque c'est ainsi, juge !» Et lui-même s'est assis sur le petit coussin au pied du trône. Salomon s'est redressé. Il a regardé l'assemblée. Il avait 7 ans. Il a regardé les femmes. Et il a dit, « Qu'on m'amène le bébé !» On lui a amené le bébé. « Qu'on m'apporte un sabre !» On lui a apporté un sabre. Alors il a pris le bébé. Et puis il l'a pris par les pieds, la tête en bas. Il l'a un peu secoué pour le faire pleurer. Et puis il a mis le sabre devant le bébé, au milieu du bébé. Il a regardé les femmes. Et avec un air très sévère, il leur a dit « Femmes, depuis le début des temps, Dieu a prévu votre querelle. C'est pourquoi il a fait l'homme en symétrie, avec 2 pieds, 2 jambes, 2 cuisses, 2 bras, 2 yeux, 2 de tout, pour que si je coupe au milieu, vous en ayez chacune la moitié. » La salle, tous les grands du royaume, se sont effrayés et ont murmuré « Malheur ! Sur la ville dont le roi est un enfant. » Mais les deux femmes, la première a dit, « Tue-le. Personne ne l'aura. Tue-le. » Et la deuxième a dit, « Donne-lui. Qu'il vive. Je le verrai grandir. Je le verrai courir. Donne-lui qu'il vive. » Alors Salomon s'est redressé avec le bébé dans ses bras. Il s'est approché de cette femme qui venait de parler. Il a mis le bébé dans les bras de cette femme-là. Il les a étreints. Et il a dit, « Ô femme, c'est toi la mère véritable. » Et dans la salle, les gens, subjugués, ont murmuré « Bonheur sur la ville dont le roi est un homme libre. »
De patrimoine et à propos des relations entre les comtes, les conteurs et le patrimoine, Anne-Gaëlle Goduchot, tu as fait cette semaine le voyage jusqu'à Vendôme pour rencontrer
Bruno de la Salle, qui est un des principaux responsables, on pourrait dire, du renouveau du conte en France, qui a formé une partie des conteurs qui existent aujourd'hui. Et dont on pourrait dire que c'est une forme de, si on était dans une autre tradition que celle européenne, dont on pourrait dire que c'est une forme de trésor vivant du conte. Je vous propose d'écouter un extrait de cette interview.
Mmh. Ok.
«
Gossal.
Bonjour Adiel Gauduchot, ça fait plaisir de vous revoir.
Donc on va parler de patrimoine immatériel culturel.
On va parler du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
La notion de patrimoine culturel immatériel de l'humanité est apparue au début des années 90 et elle portait sur la nécessité de sauver les cultures traditionnelles immatérielles en contrepoint de ce qui avait déjà été fait pour le patrimoine culturel matériel. En 1997, à Marrakech, à l'initiative d'intellectuels marocains, il y a une réunion au cours de laquelle ce concept est défini. À ce moment-là, on parle de patrimoine oral de l'humanité, c'est plus clair encore, il me semble. En 2003, il y a une convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel et matériel de l'humanité qui est adoptée à l'UNESCO. Et en novembre 2013, 158 États y adhèrent. Alors Bruno, tu as participé, toi, comme compteur, à une réunion du comité français qui travaillait sur cette convention en 2004. Et tu dis que ce qui était à sauver, c'était les connaissances pratiques d'art, d'artisanat, de technique, les savoir-faire. Et en ce qui concerne l'oralité, les façons de dire qui ne peuvent se transmettre que d'homme à homme et de génération en génération. Et ce qui a été décidé à ce moment-là, c'est que pour vérifier la validité de cette transmission, l'UNESCO se proposait de reconnaître comme telle une transmission qui se serait poursuivie au minimum à travers 3 générations de praticiens. Et c'est là que, évidemment, ça posait un peu problème. Parce que les conteurs d'aujourd'hui n'ont que très rarement joué d'un tel apprentissage. Donc du coup, toi, en 2004, tu débarques dans cette réflexion-là et tu te dis, mais alors, nous, nouveaux conteurs qui n'avons pas bénéficié de cette transmission orale, sommes écartés de ce champ-là, puisque nous prenons les histoires dans les livres et nous n'avons une connaissance que très partielle des conditions dans lesquelles vous étiez en train de réinventer.
Alors, par contre, nous prenions sur notre dos la responsabilité d'une transmission, enfin, en tout cas, de faire entendre quelque chose qui ne s'entendait plus. Mais il y avait eu un trou entre les deux, c'est-à-dire que la transmission directe avait disparu. Mais c'était pas la première fois. Il y a sans doute, ça me vient à l'idée, mais c'est évidemment qu'il y a eu des catastrophes, des guerres, qui ont bouleversé les pays qui en ont souffert, et du coup, une transmission qui se faisait dans des conditions collectives et confiantes n'existait plus. Bien que, pour les guerres anciennes, on se souvient qu'un des aspects de la transmission des contes, dont on se demande comment il se fait qu'elle se raconte à des milliers de kilomètres, quelquefois, sans qu'on puisse savoir comment ça s'est passé, en particulier au cours des guerres, la fréquentation des soldats entre eux, ou peut-être des prisonniers avec leurs gardiens, fait qu'ils se racontaient des histoires et qu'ils arrivaient finalement, et que ces histoires s'envolaient ailleurs. C'est une des hypothèses qu'on fait sur d'ailleurs les navigateurs, c'est pareil, les marins. Ils n'étaient pas toujours du même pays et donc ils se racontaient des histoires entre eux.
Dans les années 70, quand les conteurs sont réapparus en France, que cherchaient-ils ?
Alors, je crois qu'ils répondaient à un besoin, enfin à plusieurs besoins. En ce qui me concerne, puisque en tout cas nous n'étions pas nombreux, en ce qui me concerne, je voyais là le plaisir de partager l'émerveillement, l'admiration que j'avais pour les contes de fées. C'était ça que je voulais faire, et le faire oralement, parce que ça avait été fait oralement précédemment. mais ensuite peut-être de mettre mon grain de sel dans ces récits, mais de toute façon ça allait se faire par soi-même, parce que de toute façon toute narration était différente chaque fois. C'était, même si d'ailleurs les mots demeuraient stables, les impressions qu'ils procuraient et l'émerveillement aussi, d'où est-ce que ça venait, je n'en savais rien. C'était donc une question. Nous partagions un patrimoine. De toute façon, pour que ce soit un patrimoine, il fallait que ce soit collectif, il fallait que ce soit partagé. C'est ça qui s'avère au fur et à mesure que nous pratiquons cette discipline. On le voit. Ça, ce patrimoine, alors peut-être dans certains cas, un patrimoine immobilier, on le voit, on se dit, ah, on est fier que ces châteaux de la Loire soient... où les cathédrales aient été faites par les gens dont nous sommes les enfants. Bon, ok. Après, on peut regarder et on est fier aussi de voir que ça a été fait par des hommes et d'un talent exceptionnel. Et on est fier d'être humain, et même d'être humain du coin, parce que ça a été fait dans le coin, même si ce n'est pas des gens du coin qui l'ont fait. Mais en tout cas, ça s'est fait là. Pour l'histoire, justement, ça ne se voit pas. Donc il faut l'entendre. Nous nous assurons, en l'écoutant, en le disant et en l'écoutant collectivement, que ça nous définit, que c'est quelque chose qui nous appartient, au moins pendant l'instant pendant lequel nous l'avons entendu.
Donc que c'est un patrimoine.
Voilà, c'est ça.
Après, il y a eu quand même, dans l'entreprise la plus précisément que tu as menée, toi, il y a eu quand même une volonté de transmettre un patrimoine. Je pense à l'Odyssée, je pense à Gargantua, je pense à
Mais ça procède exactement de la même chose. Parce que de toute façon, ce patrimoine n'est vraiment un patrimoine que quand il est perçu. Et pour que ce soit perçu, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le dise et quelqu'un d'autre qui l'écoute. Sinon, ce n'est pas un patrimoine. Dans ce cas-là, hein, c'est ça le...
Ce que tu as fait.
Ce que j'ai essayé, oui. Mais en étant évidemment tout à fait infidèle, parce que justement des choses comme ces récits sont commandées par une certaine subjectivité. Et lorsque on le restitue, c'est dans le temps. C'est-à-dire qu'une parole s'enfuit au fur et à mesure de son audition. Mais néanmoins, on partage quelque chose, on a construit un espace hors du temps, on pourrait dire. Ce qui est sûr, c'est que quand on entend une histoire, on est dans l'histoire, on n'est pas... évidemment qu'on est dans une pièce commune qui contribue la qualité de la rencontre, mais l'essentiel, c'est qu'on est ailleurs. On peut aller ailleurs ou ailleurs et dans un autre temps.
Qui nous est commun, n'empêche.
C'est la situation qui nous est commune. C'est chacun est d'ailleurs dans son ailleurs. Mais finalement, l'ensemble des ailleurs constitue un espace mystérieux, mais tout à fait tangible.
Mais c'est vrai que cette histoire de patrimoine, c'est aussi le partage de richesses d'histoire dont on dispose, qu'on a entendu, qu'on a visité. C'est une espèce de socle imaginaire commun. Comment il s'appelait ce, tu sais, l'institut là. Comment il s'appelait? Tu sais qu'il racontait des histoires.
Il les lisait.
Il les lisait, oui. Mais qui disait, dans une classe où c'est vraiment l'enfer parce que les gens s'insultent, ont rien en commun, sinon c'est des individus les uns contre les autres, ils commençaient aussi par leur raconter des histoires pour ça, pour se bâtir un socle commun et faire un groupe.
Le fait de raconter est une approche de l'attention, de la disponibilité à l'inconnu, puisque lui avait intitulé son premier livre « La peur d'apprendre ».
Serge Boisbard.
Et en fait, c'est un outil, raconter. C'est un outil de proposition de méditation ou de réflexion commune, sans explication. On écoute et c'est une représentation de la réalité, d'une réalité précise dans un domaine qui va... Et ce qu'il a de patrimonial, c'est qu'il il va évoquer des sujets humains qui sont communs à tous, comme celui de la famille en particulier, qui va évoquer peut-être des difficultés, des souffrances, des incompréhensions qu'une vie familiale a suscité, et que ces contes reprennent pour les évoquer sans les analyser ou les psychanalyser. Donc ça, c'est un acte, parce que finalement, le patrimoine immatériel, on pourrait dire, c'est un patrimoine d'actes, puisque c'est des façons de faire, c'est des façons de faire, c'est ça, un patrimoine immatériel, une connaissance pratique, quand elle peut l'être. La difficulté des contes, c'est qu'il n'y a... on ne sait pas à quoi ça sert.
Ça me fait penser à cette histoire du pays où on fait disparaître les vieux.
On peut la raconter, dire que c'est un chef de tribu ou un roi, ils ne peuvent plus vivre dans l'endroit où ils se trouvent, il n'y a plus d'eau, les terres sont désertées, plus rien ne pousse, en plus il y a des ennemis de partout, ils décident d'aller ailleurs, mais comme ils sont très nombreux, il ne peut pas emmener tout le monde, il décide d'abandonner les vieillards. Et l'un des jeunes gens qui sont là, lui, ne veut pas abandonner son père, il l'emmène dans son sac et il essaye de se débrouiller pour qu'on ne le voit pas, il le nourrit la nuit, etc. Et ils arrivent dans un endroit, je crois me souvenir de l'histoire, pour aller au plus court, disons que... il n'y a plus d'eau et donc il faut aller chercher de l'eau. Alors il égaye des gens de partout qui cherchent de l'eau, ils ne trouvent pas de l'eau et les gens commencent à mourir de soif. Alors il dit ça à son père et son père lui dit « c'est facile, il faut lâcher un animal et il va trouver de l'eau lui tout seul. » Il lâche une vache, une jeune vache et elle marche, il la suit. Et puis elle s'arrête et là... L'endroit où c'est arrêté, on creuse et il y a de l'eau. Le chef de la tribu dit comment il t'a fait. Il dit c'est une voix qui m'a parlé la nuit, j'avais entendu parler de ça. Voilà, j'ai trouvé ça. Et puis l'autre truc, je me souviens plus ce que c'est.
Du feu.
Ah oui, c'est ça. Il n'y a plus de feu. Ils ont perdu du feu, ils avaient gardé du feu jusque-là. Ils n'y arrivent plus. Il n'y a pas de cailloux pour faire du feu. Et tout d'un coup, ils voient sur une montagne du feu. Sans doute un petit volcan, quelque chose comme ça. Alors le chef envoie quelqu'un prendre du feu et ils essayent de l'apporter, mais le feu est toujours éteint parce qu'il y a eu un orage dans la forêt, donc les bois se sont enflammés, il y a encore des tisons, mais ils amènent le feu et quand ils arrivent, il n'y a plus rien. Le feu s'est éteint. Et le fils dit ça à son père et son père lui dit « il faut prendre une poterie, mettre des tisons dans cette poterie, et là, tu auras de quoi réanimer du feu. » C'est ce qu'il fait, le chef lui demande comment il l'a fait, il dit « j'ai entendu une voix, j'avais vaguement entendu qu'il fallait un récipient pour emporter les braises, et voilà. » Donc le roi ne dit rien. Ils arrivent dans la montagne, et là, c'est un grand cirque montagneux, au milieu duquel il y a un lac, et on voit briller au fond une coupe en or, absolument splendide, sans doute en or et en pierre précieuse. Et le chef de la tribu se dit, si on arrive à ramasser ce truc, on va trouver de l'argent, on le vendra, on trouvera de l'argent de quoi faire vivre tout le monde. On est sauvé. Donc il envoie les jeunes gens qui montent en haut de la montagne, qui se jettent en bas, évidemment, et ils se tuent tous. Et le fils, c'est le tour du fils, et il dit à son père, voilà, je dois faire ça. Son père lui demande comment ça se passe. Et il dit, ah oui, je me souviens, une fois dans la montagne, on avait vu ça, on avait cru voir des bouquetins en haut dans le lac, en bas. En fait, ils n'étaient pas en bas dans le lac, c'était leur reflet, ils étaient en haut. Donc tu montes en haut de la montagne, et là, la coupe qui brille, elle est là-haut. C'est ce qu'il fait, il le trouve. Et l'autre, tu dis, c'est qui est-ce qui t'a dit ça? Et il dit, c'est mon père.
Dans cette question de patrimoine culturel immatériel, si les histoires que les conteurs aujourd'hui racontent viennent des livres, n'empêche, elles se font toujours avec leur voix, leur corps et dans une transmission directe. L'oralité, du coup, ce serait l'oralité qui serait elle-même les conditions, les techniques d'oralité qui seraient un patrimoine.
Mais là, ce que tu évoques, c'est que dans ce patrimoine immatériel, comment se passait la transmission? Parce que finalement, c'est l'événement de la transmission qui est le vrai patrimoine, enfin, qui remonte un peu à ce qu'on pourrait appeler un patrimoine immatériel ou cognitif ou de gestes. Alors, on a peu parlé de cette façon de faire les objets, mais un menuisier, un charpentier, un bûcheron, un tailleur de pierre ont tous des choses à montrer. Et je me souviens de cette expérience inoubliable pour moi d'avoir vu un tailleur de pierre travailler devant moi, et je le voyais danser autour de sa pierre. Et je voyais là qu'il avait appris précisément comment on le faisait, mais il avait rassemblé ses connaissances. Et moi-même qui avais taillé la pierre, je comprenais le geste global qu'il faisait, et je m'en souviens parce que je l'ai vu en un instant, la transmission s'était faite, j'ai compris comment il fallait faire. Et c'était ça le patrimoine immatériel, c'est le comprendre. Alors, on ne peut pas dire que sauver une chose, en fait, se sauve dans des instants. C'est évidemment qu'il y a une préparation, sans doute un apprentissage, mais ce qui compte, c'est l'instant où on va comprendre. Et ça n'est plus la salle de spectacle dans laquelle on se trouve ou la classe dans laquelle on raconte, c'est l'histoire. Et elle est si réelle que, du coup, quelque chose est transmis substantiellement au moment où... C'est-à-dire qu'elle entre dans la mémoire de celui qui l'écoute, pas seulement intellectuellement, émotivement, physiquement, elle rentre.
C'est pour ça que le concept d'immatériel, là, est...
C'est ça, est insuffisant.
C'est insuffisant,
oui. Oui. Et peut-être y a-t-il là, d'ailleurs, une connaissance, un patrimoine de connaissances culturelles immatérielles qui pourrait amener à ces instants-là de transmission, oui, de connaissances.
Tu veux dire un apprentissage.
Oui, un apprentissage mais aussi une capacité de produire une transmission. Parce que la transmission ne se fait pas par l'opération du Saint-Esprit. Il faut qu'elle soit, qu'on se livre. Et il y a d'ailleurs aussi un aspect intéressant dans notre métier, mais qui est vrai d'ailleurs dans tous, c'est la disparition. C'est-à-dire que celui qui transmet n'est plus lui-même, ce n'est plus son ego, même si son ego peut l'aider à transmettre, il est ce qu'il transmet.
La disparition de l'opérateur,
c'est ça.
Celui qui fait.
C'est ça, qui en fait est au service de ce qu'il transmet. Il est ce qu'il transmet. Mais enfin, en tout cas, ce qu'il y a de génial dans notre métier, c'est qu'on a la preuve que c'est possible, puisqu'il y a des récits qui existaient sans écriture et qui se sont transmis presque précisément, quelquefois très précisément. Donatien Laurent, qui étudiait les traditions celtiques, enfin en Bretagne, a trouvé un récit du 7e siècle, 16 ou 17e siècle, écrit, dont il a retrouvé quelqu'un qui ne l'avait jamais lu et qui le chantait.
Ah, génial. Les récits qu'on considère les plus anciens et qu'on continue à raconter aujourd'hui, c'est quoi?
Le Chaperon Rouge, par exemple.
Chaperon Rouge.
Ou ce récit égyptien des deux frères, où il y a un frère qui est...
On considère que ça date de...
C'est 2000. Enfin, donc aujourd'hui, 4000.
Ou Gilgamesh ou...
Alors Gilgamesh, non, on n'a pas trouvé de récit de Gilgamesh populaire. C'est-à-dire qu'ils se sont transmis oralement. On en a trouvé l'écriture qui date de moins 2005 ou quelque chose comme ça, on les a trouvés écrits. On ne les a pas entendus. Il y avait vaguement, il y avait des choses qu'on avait oubliées, en particulier le déluge, le récit du déluge. Mais le cyclope, par exemple, sans doute est un récit très ancien.
Le récit du cyclope dans l'Odyssée.
Dans l'Odyssée, qui, elle, date de moins 700, et qui, sans doute, est beaucoup plus ancien. Beaucoup plus ancien.
Et pourquoi le cyclope, précisément ?
Ouais, parce que c'est comme ça. Je dis parce qu'après, il se retrouve, évidemment, dans toutes les traditions méditerranéennes, d'une manière ou d'une autre, adaptées au contexte mythologique et religieux.
Ce qui voudrait dire que l'oralité est quand même un média super fiable dans le temps, finalement. Ça a beau être immatériel. Ça marche.
Soi-disant.
Hein ? Ça a beau être soi-disant immatériel, ça fonctionne quand même.
Alors peut-être que dans des œuvres qui parviennent jusqu'à nous, retiennent quelque chose d'un patrimoine plus ancien que nous, dont nous ignorons même la cause. En tout cas, il a un poids et un prix qui est qu'il est ancien. Donc s'il est ancien, il est comme nous le sommes, en quelque sorte. Parce que la vie humaine aussi est ancienne. Je veux dire, celle dont nous héritons aujourd'hui, même si elle est d'aujourd'hui, elle n'est pas tombée de la dernière pluie. En effet, il y a cette nécessité de se souvenir. Tu dis sauver un patrimoine immatériel. Ça veut dire que celui qui en hérite en mesure le prix, ou du moins a un intérêt pour et un usage aussi, enfin il en connaît les vertus. Et alors évidemment, celui qui lui a transmis, les connaissait-il ? C'est-à-dire, moi il m'est arrivé d'entendre, souvent d'ailleurs, d'entendre des contes racontés, et c'était manifeste que la personne qui les racontait n'y comprenait rien du tout.
D'accord, oui.
Mais par contre, il transmettait quelque chose qui avait de la valeur. Pour celui qui l'écoutait.
Pour celui qui l'écoutait et qui pouvait, lui, attraper quand même la substance active.
Ou peut-être celui qui observait cette chose-là, lui-même ne comprenait, il y a quelque chose qu'il ne comprenait pas. En pensant que la personne qui racontait ne comprenait pas. En l'occurrence, moi. Et donc, ça n'est pas seulement une connaissance de production, c'est aussi une connaissance de réception.
Oui, c'est ça. Apprendre à écouter, ça veut
dire ça ? Oui, absolument, apprendre à écouter, bien sûr.
On mange le pot-au-feu ?
Ouais.
C'est pas pour dire, spécial patrimoine immatériel.
Tu es allé rencontrer Marco Barret dans la ville d'Alès, t'es descendu dans le sud. Et alors, Marco Barret, pourquoi ? C'est qui ?
C'est qui ? C'est très intéressant de rencontrer quelqu'un comme Marc, Marco Barret. Il fait partie vraiment du paysage français en termes du lieu du conte, avec son CMLO, son Centre Méditerranéen de Littérature Orale, dont il a été à la tête pendant des années. Il a passé depuis peu la main à quelqu'un qui lui succède. Voilà, donc le CMLO fait beaucoup de formations. Marco Barret a encadré beaucoup de formations au CMLO. Puis aussi, là, ils ont embauché au CMLO beaucoup de conteurs qui en ont fait. Et puis, c'est un lieu, on pourrait dire, un lieu de recherche aussi. C'est un lieu qui cherche à créer des outils pour des professionnels.
Oui, mais pas forcément des conteurs, d'ailleurs.
Non, tout à fait. C'est ça qui est tout à fait intéressant, c'est que des professionnels aujourd'hui, des enseignants, des thérapeutes, d'autres conteurs, des psychologues, utilisent en fait cette matière du conte.
Et ils peuvent venir au CMLO pour trouver...
Oui, oui, tout à fait. Il y a des stages thématiques qui abordent comment le conte peut être utilisé, s'adapter à leur travail, à eux, quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. Voilà. On cherche comment trouver des applications pratiques issues du patrimoine oral pour répondre à des besoins. Alors, ça peut être des besoins en termes d'illettrisme, par exemple. Hein. Il y a des enseignants qui expliquent ça, souvent. En matière d'immigration, comment, par exemple, le conte peut régénérer une espèce d'intelligence de la langue, hein, pour des gens qui ont perdu cette capacité d'écrire, voilà, la notion de mémoire, travailler la mémoire avec le conte. Hein, il y a une très vieille histoire, en fait, entre le conte et la mémoire. Peut-être tu pourras nous en dire un mot tout à l'heure.
Il fallait quand même, au temps où l'écriture n'était pas si répandue, il fallait donc... être capable de mémoriser et de raconter, y compris des histoires qui duraient 5 heures, 6 heures, 7 voilà. heures.
Et, ouais, en effet, ouais. Et aussi, bien sûr, de façon plus simple, je ne sais pas si c'est plus simple, mais il y a également tous les récits de vie.
Oui, la mémoire de ce que tu as vécu.
Voilà, la mémoire d'une histoire familiale, par exemple. Hein. Mm-hmm. Voilà. Donc le CMLO, c'est 700 personnes formées par an. C'est une vraie, oui, bah oui, c'est une vraie mise en commun de la richesse du patrimoine oral, voilà, de l'humanité.
Alors, je propose d'écouter maintenant l'entretien que tu as fait avec Marco Barret, le créateur, disons, du Centre méditerranéen de littérature orale, autrement dit CMLO.
C'est parti. Alors, en 2003, une convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'humanité a été votée par l'UNESCO. Est-ce que vous, qui êtes chercheur, qui bossez depuis 20 ans dans ces domaines de la transmission, de l'oralité, de la définition, bon, est-ce que vous avez vu des choses, est-ce que vous avez bénéficié d'un soutien supplémentaire? Est-ce que vous avez vu des choses changer? Est-ce que vous avez vu des applications pratiques à cette votation?
Alors oui, et en même temps, il ne faut pas rêver non plus. On n'est pas, nous, dans les clous de cette charte-là, puisqu'on est des éléments secondaires et qu'on est sur la fixation. Il faut penser que la charte de l'UNESCO, c'est sauver l'art vivant. Donc ça veut dire, quelque part, il faut que ça soit une génération, il faut que ça soit des porteurs de projets qui ont eu eux-mêmes une transmission dans l'art. Donc ça veut dire qu'il y a tout un contexte UNESCO. Moi, j'ai suivi le développement de cette charte pendant très longtemps. Et à un moment donné, il y a eu cette question. C'est, oui, sauver l'art vivant, sauver le côté de l'immatériel, c'est surtout pas le fixer dans des cassettes ou dans des bouquins. C'est continuer, faire en sorte que ça continue à se transmettre dans la modalité du vivant. Voilà. Donc c'est évident que nous, quelque part, on profite de ça parce qu'on a... des tas de films qui sont faits, on a des tas de collectes qui sont faites dans ce domaine-là, mais on ne peut pas rentrer dans ces clous-là, parce que nous, on est dans la matière, pas morte, mais la matière à régénérer, quoi. On n'est pas dans un continuum de transmission. Hein. Donc la charte de l'UNESCO, elle est vraiment, elle a voulu, c'est quelque chose de très politique, et on l'a vu d'ailleurs dans la résultante de qui s'y est inscrit et qui a financé. Hein. C'est-à-dire que quelque part, c'est une façon de valoriser des peuples sans écriture, voilà, ou des patrimoines qui ne sont pas passés par le fil de l'écrit. Voilà. Donc on a des quantités de pays qui sont riches d'un patrimoine qui jusque-là n'était jamais valorisé. Parce que quelque part, non écrit, non transmissible sur le plan matériel. Et pour eux, ça a été vraiment un très très grand développement. Donc nous, ça nous permet aujourd'hui aussi de connaître des quantités de traditions qu'on ne connaissait pas.
Et comment vous les avez connus? Vous les avez connus parce qu'il y a eu des enregistrements, parce qu'il y a eu des spectacles, parce qu'il y a eu quoi?
Parce qu'il y a eu des enregistrements, qu'il y a eu des études dessus. Mais surtout parce que, moi je dirais que ce qui est fabuleux, c'est que l'UNESCO continue à laisser vivants ces espaces-là. C'est-à-dire que ce qu'on va classer et aider, c'est pas la collecte, mais c'est le continuum de transmission. Voilà. Et c'est un petit peu sur un modèle japonais, hein, où on aide celui qui connaît la matière qu'il a reçue à transmettre à son tour, en lui facilitant la vie, en payant des moments. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que justement, on ne coupe pas, on ne fait pas une rupture. Moi, je dirais qu'ici, en tant qu'ethnologue, nous, on fixe des moments de cette transmission. Mais on ne garde pas la transmission. Ce n'est pas parce qu'on l'a mis en boîte qu'on la garde. Non, vous voyez ce que je veux dire? Alors que l'UNESCO a très bien compris, et la charte de l'UNESCO est très bien faite à ce niveau-là, que ce qu'il fallait faire, c'est sauver le continuum de la tradition.
Alors, ça veut dire que des conteurs professionnels peuvent faire appel à cette charte de l'UNESCO pour leur travail?
Ils ont été en rupture avec la tradition. il faudrait que ce soit des conteurs traditionnels. Il y en a un qui pourrait être en ce moment aidé, mais qui ne veut pas l'être, c'est Pierre Pousse, hein, voilà, qui est encore un des derniers conteurs traditionnels, qui lui a reçu par l'oral, dans la transmission, dans l'éveillé, par ses oncles qui étaient eux-mêmes conteurs traditionnels, etc., et qui continue à dire, comme son oncle le disait, des contes. Alors que les conteurs d'aujourd'hui passent par le filtre de l'écriture. Ils ne sont pas inscrits dans une tradition, en fait. Hein. C'est une nouvelle. Pour moi, le travail du néo-conteur n'est pas du tout un travail de conteur traditionnel. Il n'y a plus de conteur traditionnel quasi. Hein. Voilà. On est dans un endroit où on réinvente un art. Voilà. Je crois que là aussi, l'UNESCO, c'est un organisme mondial, hein, qui essaye de créer des régulations et des équilibres, voilà, dans des cheminements. Hein. Voilà. En tous les cas, on peut aussi en profiter autrement, en régénérant des espaces de tradition, de lisibilité. Nous, on a été aidés indirectement sur l'UNESCO il y a deux ans, avec le Pont du Gard, hein, qui fêtait ses 30 ans de collaboration avec l'UNESCO, voilà, et qui nous a demandé de faire des circuits ethnobotaniques avec des conteurs qui sont venus re-raconter les plantes à partir des contes traditionnels. Voilà. Mais on n'est plus du coup là dans la sauvegarde, plutôt dans la mise en valeur du patrimoine. C'est encore autre chose. Hein? Voilà, donc là, on n'a pas les mêmes fonds. Il faut aller chercher des fonds ailleurs. Hein?
Donc, patrimoine immatériel. Voilà. Si on pouvait essayer d'approcher une définition, parce que c'est une notion assez compliquée à cerner.
Voilà, la charte est très bien faite à ce niveau-là. Elle dit bien ce qu'il faut dire. Bon, c'est juste que c'est une lecture qui n'est pas toujours très agréable et évidente, mais elle est vraiment extrêmement précise. Hein, la charte de l'UNESCO, qui est la charte de 2003, hein, qui a été très élaborée. Il faut penser que la pensée sur cette charte-là a commencé en 71 pour les chercheurs. Ça a demandé du temps de réflexion, parce que bon, il y a des enjeux énormes, hein, après. Mais quand on voit que cette charte a été adoptée très rapidement et qu'elle a été signée, parce que quand les pays signent cette charte qu'ils doivent financer, parce que l'UNESCO est financé par les gens qui adhèrent, hein, c'est qu'il y avait un enjeu politique extrêmement important derrière au niveau de la reconnaissance culturelle de certains pays, quoi. Et donc là, par contre, c'est un vrai succès à ce niveau-là. Hein. Bon, après, pour moi, pour les conteurs, c'est très intéressant, mais pareil, est-ce que ça les intéresse d'aller voir les films que l'UNESCO fait sur toutes ces traditions-là? Parce que là, veut dire, dans les films où on voit les bardes en train de raconter les épopées, avec la puissance qu'ils ont, on a peut-être des progrès à faire encore. Hein,
en tout cas, moi, à sa place, avec les gars, beaucoup d'argent, j'ai dit oui.
C'est pas pour dire, aujourd'hui, le patrimoine immatériel.
Si on a envie de découvrir les films dont parle Marco Barret, alors on fait quoi?
Eh bien, on peut aller voir sur le site de l'UNESCO. On y recherche la rubrique patrimoine immatériel et on va y trouver des quantités de films qui sont disponibles, qui sont accessibles à tout à chacun.
Et la fameuse charte de l'UNESCO sur le patrimoine immatériel oral, elle dit quoi?
Alors, je vais vous dire, je vais prendre mes petites notes. Hein. On entend par patrimoine culturel immatériel les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire, ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés. Que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure donc un sentiment d'identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine.
Bon, ça c'est le texte de l'UNESCO, mais toi, qui depuis maintenant 9 ans circule en France partout pour interviewer les conteurs d'aujourd'hui sur leurs pratiques, il me semble que tu fais une œuvre de sauvegarde d'une forme de patrimoine immatériel aussi, non ?
Oui, bon, bah, les conteurs sont des artistes de la relation, hein, de l'éphémère. Voilà, la plupart du temps, ils enregistrent pas leurs histoires.
Ah, hein, ouais.
Ils les vivent, ils les vivent en spectacle avec le public. Voilà, dans une notion de moment éphémère et fort. Mais il y en a très peu en fait qui publient. Hein. Voilà. Alors on en trouve bien sûr.
Dans les éditions pour enfants essentiellement.
Voilà, hein. Voilà, les éditions Didier Jeunesse, chez Cyrose par exemple, et puis. Et voilà.
Oh, il y a des conteurs qui n'éditent pas du tout.
Complètement.
Et justement, Charles, est-ce que tu peux citer quelques-uns des environ, je ne sais pas, 90 conteurs que tu as interviewés jusqu'ici ?
Voilà. Alors là, moi, de toute façon, tout un chacun peut regarder, puisqu'ici, il consulte le site, c'est pas pour dire tout accroché sans apostrophe. .fr, voilà, vous allez pouvoir avoir accès à tous ces compteurs.
Hein. On retrouve les 90, ah, oui, 100 émissions, on
alors,
peut les télécharger.
Complètement. Voilà, vous allez retrouver Ahmed Bouzine, le compteur du désert. Vous allez retrouver Katrina Ankoba, qui a fait un travail remarquable hein, sur l'épopée camerounaise, qui s'appelle Jekyll Anyambe. Voilà, vous avez Nathalie Le Boucher avec ses récits de l'Inde, voilà, et son expertise en Katakali. Isabelle Jeanlis avec une très belle version du Kim Vankyo, qui est un récit fondateur de son pays d'origine lointaine, hein, puisqu'elle est un peu dans le lointain, comme ça, issue d'une parenté vietnamienne. Satu Niranen aussi, avec son récit chanté du Kalevala. Également, c'est un texte fondateur de l'épopée finnoise. Vous voyez, il y a beaucoup de textes qui ont été travaillés comme ça, qui sont issus de textes fondateurs. Des gens comme Patrick Caudal, qui est un linguiste émérite, qui est un chercheur au CNRS, hein, je crois.
Je ne sais plus où il travaille, mais oui, il est linguiste, oui, il est chercheur, en effet. Voilà. Il a travaillé sur les récits anciens irlandais, et notamment l'histoire de Deirdre et de l'exil des fils d'Ishlou. Et tous ces conteurs-là que tu cites, je m'aperçois qu'ils ont tous en commun de prendre en charge des récits qui ne sont plus racontés par personne et qui pourtant soutiennent, sous-tendent des cultures entières. La langue de ces endroits d'où ça vient, les croyances, les valeurs, les tournures de pensée, les symboles, les personnages archétypes, la mémoire de gestes, de chansons, de territoires. Et c'est la raison pour laquelle Amadou Ampateba,
oui, le grand sage
africain, qui disait qu'en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûle. Amadou Ampateba, il disait, si vous voulez sauver des connaissances et les faire voyager à travers le temps, eh bien racontez-les, confiez-les aux enfants. Et encore, que si tu entends une histoire, il te faut la raconter. Si tu la racontes pas, elle te punira. Si tu la racontes mal, elle te punira aussi. Et si tu veux vivre longtemps, alors apprends à bien raconter. Et je sais, puisqu'on parle de conteurs, je sais que tu as beaucoup aimé la conteuse haïtienne Mimi Barthélémy, que tu avais interviewée aussi, non ?
Ah oui, un personnage tout à fait attachant que cette Mimi Barthélémy, qui malheureusement est décédée. Mais voilà, encore on voit l'utilité de ce travail d'enregistrement de la voix. Mimi Barthélémy a été enregistrée, interviewée par nous à peu près un an et demi, je pense, c'était à Epos.
Le Festival des Histoires qui avait lieu à Vendôme. Ouais.
Vendôme. Et voilà, elle est partie, mais cet enregistrement d'elle et de son travail reste, quoi. Et c'est toujours très, très réjouissant de l'écouter à nouveau. C'est très émouvant.
Et elle aussi, d'ailleurs, elle est héritière d'une tradition et en même temps, elle est née en Haïti, à Port-au-Prince. Elle est héritière d'une tradition, puis en même temps, elle a réinventé un répertoire et un mode d'expression bien à elle. Hein, elle raconte les histoires de son patrimoine, mais en même temps avec un mode d'expression nouveau. C'était intéressant. Et je propose d'écouter justement un court extrait de l'émission que tu avais consacrée à cette femme qui a été consacré chevalier des arts et des lettres.
Ce qui n'est pas rien.
Mimi Barthélémy.
Honneur et respect à vous, messieurs, dames, la société. Honneur et respect à chacun de vous. Côté ouillé, papa, en a ti bon leg baye si wo, quand jolé au leg baye. Négatif bon leg baye, dans toi, mina o, o, si wo. Négatif bon leg baye, côté ouye, papa, a ti bon leg ba, si wo.
C'est pas pour dire, aujourd'hui, le patrimoine immatériel.
On vient d'entendre un enregistrement que la conteuse Mimi Barthélémy, de la conteuse Mimi Barthélémy, qui chantait là un des nombreux chants Yoruba adressés à Legba, qui est une des divinités afro-africaines, que selon les pays et les circonstances, on appelle Elegua. Legba, Échou, qui est le messager, la divinité des passages, des carrefours, des ouvertures, et quelquefois aussi des blagues pas drôles.
Ouais.
Et depuis les ancêtres analphabètes, en tout cas, qui n'écrivaient pas jusqu'à nos jours, des chants ont transporté la culture Yoruba. En Afrique, en Haïti, au Brésil, à Cuba, des centaines de mythes, de chansons, de prières.
On a aussi des recettes culinaires.
Oui, des recettes culinaires, ouais, des formules magiques, des règles protocolaires, évidemment. Des centaines de récits qui illustrent, selon la sagesse Yoruba, les chemins de l'homme sur la terre.
Alors, le patrimoine oral, ce sont aussi des récits de vie. Hein. Ce sont aussi des comptines, des proverbes, des devinettes. C'est l'histoire des gens aussi. Voilà. Et je crois savoir qu'à la compagnie La Lune Rousse, il y a en projet des résidences de conteurs, des moissons d'histoire. Est-ce que tu peux en parler un petit peu, Angèle Goduchaud ?
Alors, tu parlais de résidences de conteurs. Mmh. Il y a eu en effet un projet à la demande de la DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles, et parce que ça allait dans le droit fil des émissions radio, on avait le projet d'organiser des résidences de conteurs. L'idée, c'était de créer les conditions d'une exigence artistique pour les arts du récit. Évidemment, de faire découvrir au public les mille facettes de cet art qui a la particularité d'être à la fois millénaire, c'est vraiment un des arts premiers, et puis en même temps en pleine mutation, en pleine construction. La DRAC et la ville de Saint-Herblain, dans laquelle la compagnie habite aujourd'hui, avaient demandé qu'on explore pendant 3 ans un genre de... un type de conte qu'on pourrait appeler le docu-conte ou conte documentaire, c'est-à-dire le conte quand il est en prise directe avec l'histoire et l'actualité. Il y a eu une première résidence qui a eu lieu avec Paul Lator qui dans ce cadre-là a travaillé sur... c'était un travail vraiment intéressant, c'était la maquette d'un projet qui sur la guerre d'Algérie. Et son projet, c'était de lier des contes traditionnels, des éléments autobiographiques, puisqu'elle-même est née en Algérie, d'une famille pied-noir, des témoignages collectés. Alors, elle a travaillé ici, à Saint-Herblain, elle a rencontré des habitants, elle a fait des entretiens, elle a croisé son travail avec celui d'atelier d'écriture, c'était super. Malheureusement, on n'a pas pu continuer... et faire d'autres résidences comme on avait envisagé de le faire à un moment, parce qu'il y avait simplement...
L'histoire de nerfs de la guerre.
Mais hein, oui, en fait...
L'histoire de sous.
Mais oui, c'est dommage. Oui. En fait, la compagnie La Lune Rousse n'est pas soutenue au fonctionnement. Enfin, si, elle est soutenue à hauteur de 1 000 euros par an, ce qui est vraiment très, très peu. Et donc, quand on fait des projets comme ça, qui demande pas mal d'organisation, de mise en place, d'accompagnement administratif, de travail de production et tout ça, et ben, on doit intégrer au projet ces frais-là. Et évidemment, personne ne veut payer ça. Donc, on a dû s'arrêter, c'est dommage. Et puis, cette année, on fait aussi de la collecte des moissons d'histoire.
Alors, donc, c'est quoi ça, les moissons d'histoire ?
Ben, l'idée est de relier davantage encore notre travail artistique, de compagnie artistique, à la ville et au quartier dans lequel on est implanté. C'est l'idée que, bien sûr, il y a des compteurs qui sont les professionnels de la parole, mais chacun porte un petit bout d'histoire. Ça peut être des devinettes, tu parlais de devinettes tout à l'heure, des chansons d'enfance, des proverbes, une histoire familiale. Notre vie est une histoire. L'histoire qu'on se raconte, l'histoire que nos parents, quelquefois, nous ont racontée, qui fait notre quotidien et que... L'idée, c'est que toutes ces histoires, comme un tableau, impressionniste, dessinent finalement comme une image du quartier dans lequel on vit. Bref, l'hiver, on invite des conteurs à raconter chez les gens, c'est ce qu'on a appelé les contes à part. Et puis, lors de ces contes chez les gens, on prend rendez-vous pour collecter les histoires, les témoignages des gens qui nous accueillent. Ça, c'est l'hiver.
Donc ça, c'est vraiment aller au plus près des gens, parce qu'on vous allez directement, on va directement chez eux, quoi.
Dans les salons.
Physiquement. Dans les salons des grands quartiers nantais et herblinois.
Et puis au printemps et en été, toute cette collecte, cette moisson d'histoires peut être redonnée. Alors, selon les matériaux récoltés, elle peut être criée sur le marché par un conteur-crieur ou bien lors d'une fête de quartier. Elle peut être restituée sous une forme de lecture, par exemple, au pied des immeubles sur la scène mobile de la compagnie La Lune Rousse. On a appelé la bête de scène.
Une drôle de bestiole. Hein. Enfin, voilà. Donc, c'est un objet magnifique, en fait. Hein. Tout aluminium, brillant dans le soleil.
Comme une espèce de
brillant
poisson,
sous la lune.
Quand elle ouvre la gueule, fait une scène.
Fait une scène qui est très adaptée, en fait, aux conteurs et musiciens qui se produisent dessus. Ouais.
Et puis, ces paroles seront disponibles sur un site internet. Et puis, l'idée aussi, c'est que une partie de ces matériaux sera absorbée, digérée, métabolisée, transformée par les conteurs qui vont en faire des lectures. Mmh. Et puis un spectacle qui devrait faire le fil rouge d'une des nuits du conte. La Lune Rousse fait depuis un moment, tous les deux ans à peu près, sur l'agglo nantaise, une nuit du conte, une nuit où tout le monde raconte.
D'accord. Alors tout ça fera sans doute l'objet de nouvelles émissions. Hein. C'est pas pour dire sur GTFM toujours, voilà. Et voilà. On parlait tout à l'heure de récits de tradition orale, et on peut peut-être dire aussi que tu t'apprêtes à publier avec tes complices musiciens Christophe Pio et Ludovic Hellet une suite cubaine qui reprend des récits yoruba. D'ailleurs aussi avec d'autres musiciens.
Enfin, il y a plusieurs musiciens également. Alors on est en quintette. Christophe Pio qui joue les tambours bata, Ludovic Hellet à la contrebasse et à la guitare, et puis il y a aussi Stéphane Auster au violoncelle, Gilles Bourras au violon, et puis tout ce monde-là chante aussi. Et le disque sort officiellement dans quelques jours, le 26 septembre 2019. Vous êtes conviés au Terrain Neutre Théâtre à Nantes pour la sortie officielle. Donc venez, on écoutera des extraits. Et puis, mais on peut déjà, en écouter un petit bout tout de suite.
En avant-première, c'est parti.
Barasuayo, omonia la wana mama keni diao e. Barasuayo, omonia la wana mama keni lao e. bara swayo eke e tuo dara. Omoniara wana mama ke nira.
Voilà, ce C'est pas pour dire consacré au patrimoine immatériel est terminé. Vous pouvez retrouver donc toutes les émissions qui ont été faites sur C'est pas pour dire sur le site spécialisé C'est pas pour dire tout accroché sans accent.fr. Voilà, et nous vous souhaitons une très bonne journée à tous et à la prochaine.